Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on anime un épisode qui est vraiment spécial étant donné la situation très spéciale dans laquelle on se retrouve avec le COVID-19. On est en télétravail. Nous, on a l'habitude, l'équipe, d'être en télétravail. On travaille à distance la très grande majorité de notre vie, en fait. Et aujourd'hui, par contre, on voulait éviter les rassemblements, respecter la directive de distanciation sociale et de pouvoir en même temps faire d'une pierre deux coups et de montrer à nos auditeurs et peut-être à ce moment-ci aussi aux gens qui pourraient vouloir regarder. On enregistre aussi le visuel, donc de pouvoir montrer un petit peu ça ressemble à quoi quand on fait nos réunions d'équipe, tout le monde ensemble à distance et pouvoir montrer que ça se fait super bien, que il y a pas de problématique majeure et que ça va peut-être encourager les gens à utiliser des systèmes de vidéoconférence s'ils ne le faisaient pas déjà. Peut-être juste préciser que, étant donné qu'on enregistre à distance comme ça, il va y avoir certainement des interruptions, des enfants qui risquent de venir nous poser des questions. Peut-être que mon chien va se mettre à japper si ça sonne à la porte. C'est normal, c'est la vie habituelle en télétravail, puis il y a des bonnes chances que ça se produise. Puis également, ben, que le son soit peut-être un peu moins excellent que lorsqu'on en retrouve habituellement chez Sarah avec l'aide extraordinaire de Charles, notre technicien habituel de son. Ben là, c'est sûr qu'on enregistre à distance avec les moyens que l'on a. Donc, le son sera définitivement un peu moins bon qu'à l'habitude. J'espère que vous allez nous pardonner.
Alors, ça fait partie un peu, hein, de. Je pense qu'on n'est pas. Il faut être flexible ces temps-ci. Je pense que c'est un peu l'objectif. Donc, on n'a pas de console, on n'a pas de micro, on n'aura pas de montage. Donc, vous allez nous voir comme on est, au naturel. Je pense que ça va être le fou. Moi, je trouve que je suis bien contente. On a toute l'équipe avec nous. Ça, oui. C'est une première aussi. D'habitude, on est trois à peu près. Donc, ça risque d'être intéressant d'avoir plein de monde autour de la table.
Alors, vous avez certainement reconnu la voix de Sarah, ma co-animatrice habituelle. Et j'en profite à ce moment-là. Bien. Allô, Sarah.
Allô.
Enchantée. j'en profite pour vous présenter chacun des membres de l'équipe. Caro, que vous avez déjà entendu dans plusieurs de nos épisodes précédents, qui est mon associée. Caro, si tu veux dire bonjour pour qu'on puisse te voir à l'écran.
Salut! Bonjour! C'est bien excitant d'être là aujourd'hui avec l'ensemble de l'équipe, comme Sarah disait. Donc, voilà, bien contente de pouvoir faire ça avec vous, les filles.
Merci, Caro. Fleur, est-ce que tu nous dis bonjour?
Allô! Bonjour tout le monde!
Fleur, qui est une toute nouvelle addition à l'équipe. Daphné?
Allô!
Daphné, qui est avec nous depuis quand même un certain temps. Vous allez l'entendre bientôt dans des futurs épisodes. Là, on est sur le point de diffuser plusieurs épisodes avec Daphné. Et Chloé?
Allô, Chloé!
Bonjour!
Comment ça va, Chloé? Chloé, qui est notre plus ancienne employée dans l'équipe actuelle de Via Conseil. Alors, Chloé, bien contente de t'avoir avec nous aussi pour ce podcast-là, cet épisode-là. Alors, aujourd'hui, on veut couvrir des sujets en lien, bien entendu, avec la crise du COVID-19, surtout en lien avec, évidemment, les organisations, les questions que les employeurs peuvent avoir en lien avec la gestion de leurs employés dans une situation comme celle-ci. On s'est fait poser beaucoup de questions par nos clients dans les derniers jours, puis on a voulu faciliter la vie de ces dirigeants de petites et moyennes organisations-là en répondant au mieux aux questions qu'ils se posent. Bien entendu, c'est de l'actualité qui change de jour en jour. Donc, en espérant que l'information qu'on va vous partager va rester pertinente pour quand même un petit bout de temps, mais plusieurs éléments là, qui vont s'appliquer, là, peu importe à quel moment on se trouve dans la crise.
Est-ce que tu veux peut-être mentionner qu'on a aussi fait une boîte à outils qui est gratuite, qu'on a partagée sur Facebook, LinkedIn? Il y a plusieurs pistes de solutions et de réflexions intéressantes. Des fois, c'est le fun d'avoir un outil papier en un coup d'œil. Donc, gênez-vous pas, papier à l'écran. Donc, gênez-vous pas d'aller le télécharger.
Absolument. Puis, gênez-vous pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux également parce que on va continuer à partager des outils et de l'information très actuelle. C'est par les réseaux sociaux qu'on réussit à mieux le faire parce que c'est plus rapide. Donc, si vous voulez être tenu au courant de ce qui est pertinent pour les petites et moyennes organisations dans la situation de crise qu'on vit. Suivez-nous sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook sont les deux endroits les plus pertinents pour avoir des mises à jour régulières. Alors, on commence. La première chose peut-être que j'avais envie de discuter avec nos auditeurs, c'est l'importance de peut-être mettre en place une cellule de crise, faire un plan de contingence. Je sais que pour la plupart, c'est probablement déjà fait. Si c'est pas déjà fait, très important de mettre ça en place dès le départ. C'est assez quand même simple à faire. On identifie des gens dans l'organisation qui feront partie de la cellule de crise, qui pourront contribuer, puis d'identifier aussi peut-être des sous-comités qui pourront s'attaquer à différents sujets en particulier. Les sujets qu'il faudra couvrir, le plan de continuité des opérations, s'assurer qu'on va avoir bien réfléchi à comment on fait en sorte que les opérations se poursuivent hein, dans le quotidien, malgré la situation qu'on vit actuellement, et ne pas oublier la chaîne de commandement. C'est souvent le bout qu'on oublie, mais si les gens qui sont dans des postes décisionnels importants, comme le PDG, le DG, les gens qui prennent les décisions au quotidien, s'ils doivent s'absenter, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils doivent s'occuper de gens dans leur environnement qui sont malades, ou s'ils se retrouvent en quarantaine et sans pouvoir vraiment rendre les mêmes services qu'en temps normal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est un élément qui est hyper important à réfléchir.
Peut-être mentionner aussi, tu sais, même si la personne qui prend la décision va bien, c'est important de garder les gens au courant aussi, tu sais, de ce que vous faites, puis de s'assurer que quelqu'un peut rapidement prendre la relève de cette personne-là, parce que des fois, ça va vite, puis une situation peut basculer, donc d'avoir un plan de relève, ouais.
Absolument, pour l'ensemble des postes clés. Mais aussi pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Donc, comment on va fonctionner si l'organisation, tout à coup, manque 10 % 20 % 50 % de ses effectifs? Donc, c'est quand même des scénarios qui sont à envisager dans la situation actuelle. C'est pas improbable. Il faut penser aux gens qui pourront potentiellement être malades pour des courtes périodes de temps, des fois des plus longues périodes de temps, mais c'est surtout que il y a un paquet de gens qui vont devoir peut-être s'absenter pour prendre soin d'un proche. Les enfants aussi sont pas très malades avec ce virus-là, mais les parents des travailleurs risquent de peut-être avoir des problématiques plus importantes. Donc, on risque d'avoir beaucoup d'absentéisme aussi pour ça. Donc, faire un plan qui permettront de poursuivre les opérations pour être en mesure de passer à travers la crise.
Dans le contexte où la plupart de nos clients ont souvent moins de 50 employés, tu dirais, tu sais, une cellule de crise, on voit ça souvent dans la plus grande entreprise, mais mettons à une taille là, d'une organisation qui aurait peut-être une trentaine ou une quarantaine d'employés, ça peut constituer, on peut mettre à peu près combien de gens, ce que tu recommanderais, là, comme combien de personnes devraient être identifiées pour faire partie là, de cette cellule de crise-là?
Très bonne question. Ça dépend évidemment, comme tu dis, de la taille. À 50 employés, je pense qu'une dizaine de personnes pour être capable de déployer des effectifs dans les différents sous-comités, je pense que ça pourrait être une bonne taille. Par contre, dans les plus petites organisations, je pense que 5 personnes qui vont être la cellule de crise en entier, là, qui vont pouvoir recouvrir l'ensemble des sujets, serait probablement une bonne taille, tout en prévoyant des plans de continuité pour ces gens-là aussi. Hein. C'est pas impossible que les gens de la cellule de crise tombent malades aussi ou doivent s'absenter. Donc, d'avoir des plans B pour ces gens-là aussi, c'est important. On a beaucoup d'OBNL hein, dans nos clients, donc n'hésitez pas à faire appel à votre CA pour faire acte de présence sur cette cellule de crise-là. Ils pourront certainement contribuer là, selon leurs différentes expertises. Moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Je fais partie d'un CA et je fais partie de la cellule de crise également. C'est une petite organisation d'une vingtaine d'employés, donc il y avait besoin de ressources externes supplémentaires pour pouvoir pallier à la crise et je pense que c'est une bonne façon de s'en sortir aussi pour les petits OBNL. Autre point à considérer, la trésorerie. S'assurer que si on a une diminution de revenus, on va avoir la possibilité de passer à travers la crise. Donc, on va pouvoir parler des différentes options qui s'offrent aux organisations en termes de financement un petit peu plus loin. Mais je pense que c'est important de l'adresser dans la cellule de crise. Tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, effectivement, en ce moment, c'est plus difficile pour certaines organisations d'avoir les ressources matérielles pour être capable de bien produire, de poursuivre leur production. Donc, ça aussi, ça prend des gens qui vont se pencher sur cette situation-là. Puis, tout l'aspect de la communication à l'interne, à l'externe est un élément super important à considérer dans le cas d'une cellule de crise pour une pandémie ou toute autre crise finalement qu'on peut vivre dans nos organisations. Ça va être un bon test aussi pour d'autres possibles crises qui viendront dans le futur. Également,
peut-être dans les idées moyens, là, parce que parfois ce qui est difficile, c'est d'être capable de rejoindre tout le monde rapidement, quasiment en temps réel. Fait que, parfois peut-être d'avoir des plusieurs fois par semaine des petites rencontres, conférences téléphoniques où justement on fait le point, là, un peu comme le gouvernement fait avec nous, là, des points de presse quotidiens là, sur le statut là, des événements. Peut-être que dans certaines organisations, ça peut être important là, plutôt que de se parler puis qu'il y ait une chaîne de communication, là, ça peut être des fois plus efficace de dire tous les matins à 9h ou à 9h30, on se connecte puis on transfère, là, on donne l'information là, qui est la plus à jour. Là, ça peut être assez efficace.
Absolument. Très bonne pratique. D'ailleurs, on peut s'inspirer de certains paliers de gouvernement qui sont meilleurs que d'autres actuellement à faire cette communication-là constante, à la même heure, à tous les jours, à l'heure. Alors, je pense que ça peut être effectivement une bonne pratique. Puis là, ben, d'une organisation à l'autre, ça va être très différent. Hein. Tous ceux qui sont en télétravail, tout le monde, ben à ce moment-là, on choisit soit la vidéoconférence ou le courriel ou un appel conférence. Il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser. Par contre, pour les organisations qui ont des gens en télétravail et des gens sur place, faut aussi penser à ces cas de figure-là. Là. Est-ce qu'on fait des réunions en personne sans rassembler tout le monde dans la même pièce autant que possible? C'est plusieurs avenues différentes qu'il faut réfléchir. Je pense que c'est du cas par cas. Mm. Parlant de mesures à mettre en place, il y a quand même des choses importantes, je pense, à prioriser qui sont pas mal annoncées dans la plupart des organisations jusqu'à maintenant. Mais on voulait quand même faire un point là-dessus pour s'assurer que tout le monde avait eu l'information. Donc, si c'est pas déjà fait de votre côté, je pense qu'il y a quand même certaines choses qui sont à mettre en place. Je sais pas si vous aviez des idées sur l'aspect des mesures à mettre en place si les gens ne l'avaient pas déjà mis en place?
Ben moi, je peux répondre. mais dans le fond, je pense que je ne vais rien apprendre aux gens qui nous écoutent, là, parce que si on entend, on écoute tous la radio puis la télévision en ce moment, là. Mais bon, les mesures immédiates à mettre en place, évidemment, c'est déjà de prendre des mesures d'hygiène qui s'imposent, donc bien se laver les mains, éviter les poignées de porte du mieux qu'on peut. Puis en entreprise, faut faire la même chose qu'on fait à la maison, là. Donc c'est vraiment mettre en place toutes ces mesures d'hygiène là. Évidemment, encore une fois, ça c'est des choses qu'on entend régulièrement depuis plusieurs jours. Cesser tout voyage à l'extérieur du pays. D'ailleurs, à partir de demain, le Canada va fermer ses frontières, comme les États-Unis l'ont fait la semaine passée. Donc, ça amène quand même un bon message là à tout le monde qu'il faut arrêter de voyager. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas vraiment conscients de ça là, qui continuent de voyager, mais faut faire son devoir citoyen, je pense, puis encore plus en entreprise. Cesser les voyages professionnels, ça c'est quelque chose qui a déjà été annoncé depuis la semaine dernière. Évidemment, si jamais on était en voyage, s'imposer de faire une quarantaine, même si on ressent pas de symptômes, C'est important, encore une fois, c'est notre devoir de citoyen là, de faire en sorte que ce virus-là se propage pas plus que ça. Et en tant qu'employeur, évidemment, d'inciter les gens qui reviennent de voyage, donc de prendre les mesures aussi, de savoir qui était en voyage et d'inciter justement les gens à rester chez eux pour pouvoir faire cette quarantaine-là. Donc, avec la quarantaine, évidemment, se pose la question du télétravail. Donc ça, encore une fois, le plus possible, inciter les organisations et les employés quand c'est possible de le faire, hein. Je sais que c'est pas possible de le faire à chaque fois, mais le télétravail, on sait que ça se fait bien, on est capable de le faire parce que c'est possible de le faire, hein, mais c'est vraiment la meilleure des mesures à prendre, je pense. Et de toute façon, c'est ce qui est recommandé encore une fois. Donc, si on peut le faire, il faut le faire. Si c'est pas possible, bah, la distanciation sociale en entreprise. Donc là, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Ben, je pense notamment à des horaires rotatifs. Donc, pourquoi pas une équipe, diviser le monde en équipes, une équipe qui travaille un jour, l'autre équipe le lendemain, puis ainsi de suite. Ou sinon, diviser le temps de travail par journée, si c'est possible. Une équipe du matin, une équipe de soir, pour pouvoir mettre en place un peu comme ça a été fait depuis 2 jours maintenant dans les restaurants. Une table vide entre chaque place pour pouvoir vraiment être le plus loin possible les uns des autres, oui. Pour éviter cette propagation-là, parce qu'on sait que ça va vite, puis je pense qu'il faut vraiment mettre toutes les mesures en place pour éviter que ça se propage là, comme on a vu dans certains pays, ça va très, très, très vite.
Surtout sachant qu'il y a beaucoup de parents qui sont de jour à la maison concernant la fermeture des écoles et des services de garde. Donc, en profiter pour se partager comme parents le quart de jour, le quart de soir à la maison avec les enfants, puis aller travailler à ce moment-là sur l'autre corps. Donc, on a vu ça s'installer dans plusieurs organisations, puis on pensait que c'était quand même une idée intéressante à partager avec eux.
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, j'ai une cliente hier au téléphone qui m'a dit qu'elle faisait ça, qu'elle faisait cette pratique-là. Donc, elle se retrouve évidemment avec les enfants à la maison, son conjoint également. Donc, ils ont mis en place cette rotation-là. Elle s'occupait des enfants le matin et son conjoint pouvait travailler le matin, puis inversement l'après-midi. Donc, c'est des bonnes pratiques, je pense, à mettre en place. Pour essayer de concilier tout ça. Là, c'est sûr que c'est situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on fait ce qu'on peut, mais
faut les choses bien. La flexibilité, je pense, en termes
c'est ça, tout à fait.
D'employeur. Oui, tout à fait.
Tout à fait.
J'aurais peut-être une question pour vous qu'on entend souvent de la part de nos clients pour le télétravail, c'est à quel moment il faut qu'ils contribuent au niveau du paiement des outils, des ordinateurs ou de l'installation du poste de travail à la maison. Donc, dans des situations comme ça, un peu exceptionnelles, qu'est-ce que vous leur diriez?
C'est un bon point. Ça nous amène sur le sujet du télétravail, justement, plus spécifiquement. Quelqu'un veut répondre à la question?
Ben en fait, je pense que j'allais dire qu'il fallait être flexible puis peut-être pas demander aux gens de payer pour ça. Je pense que présentement, c'est une situation très, très exceptionnelle. Fait qu'il faut qu'on fournisse le matériel nécessaire à nos employés pour qu'ils puissent faire leur travail de la maison.
Oui, tout à fait. On a l'habitude de mettre en place des politiques de télétravail chez nos clients dans un contexte normal. Alors, habituellement, quand on est dans un contexte normal, on va plutôt dire aux organisations qu'elles n'ont pas à fournir, elles n'ont pas l'obligation de fournir le matériel dans la mesure où ça devient un privilège que les gens vont se prévaloir de faire du télétravail. C'est plus pour donner ce privilège aux employés qu'on met en place cette politique de télétravail-là, mais dans un contexte où, à l'inverse, on oblige un peu les gens à faire du télétravail s'ils n'ont pas les outils nécessaires à la maison pour être capables de faire cet exercice-là de télétravail. C'est important de les aider au niveau autant du matériel que de la connexion Internet. Quoique là, je pense que Vidéotron et Bell ont annoncé qu'ils allaient enlever les limites de données. Donc, ça, c'est une belle initiative.
C'est fait.
Donc,
à titre d'exemple,
oui.
Moi, mon À titre d'exemple, moi, mon conjoint, là où il travaille, ils l'ont offert de venir chercher le matériel au bureau pour être capable de l'apporter à la maison. Donc, tu sais, parfois, on est habitué de travailler avec un écran, deux écrans, notre souris. Donc, ils ont ouvert cette possibilité-là aux gens là, de passer, même en soirée, pendant le week-end, venir récupérer leur matériel. Fait que ça peut être une façon plus économique que d'avoir à verser des allocations ou à acheter des nouveaux tickets. Donc, c'est sûr qu'après ça, on part avec la confiance de nos employés, mais je pense que dans ce contexte-là, ça peut être une façon là, de procéder aussi.
Absolument. Ça peut être aussi un bon moyen de tester que le télétravail fonctionne, parce qu'on sait qu'il y a certains employeurs qui sont réticents à ça, puis aussi des employés qui sont pas forcément à l'aise avec cette notion-là. Mais au final, ça peut être... Je pense que là, on est peut-être en train de vivre un grand test mondial de télétravail. Donc, côté positif dans cette situation-là.
Excuse-moi, je t'ai comme un peu coupée. Oui, je suis désolée. Flair, j'allais juste dire, t'as 100% raison. C'est une belle occasion de tester puis de peut-être démystifier. Faut juste garder en tête que c'est un contexte particulier. Fait que peut-être que ça sera pas aussi efficace que ça peut l'être pour la réalité. On fait ce qu'on peut, mais t'as raison de dire que des fois, c'est un premier pas. Mais faut juste garder en tête que quand on planifie bien des mesures de télétravail, normalement, ça se passe de façon un peu plus fluide que par les temps qui courent.
Je pense que il y a une différence, je pense, entre une organisation qui avait déjà comme pratique le télétravail où il faut faire un ajustement à la pratique et à la politique habituelle, où là, on se dit, OK, c'est un cas de force majeure, les éléments de notre politique vont être un peu aménagés, un petit peu plus flexibles pour faire en sorte que ça s'applique dans notre contexte, versus une organisation qui en avait pas du tout de pratique de télétravail, où là, sont un peu forcés, puis il faut le faire tout d'un coup. Moi, je l'ai vécu avec l'organisation là, que j'accompagne, dont je parlais tout à l'heure, là, que je suis dans la cellule de crise en tant qu'administratrice. Ils ne faisaient pas vraiment de télétravail, ils n'avaient pas vraiment de politique de télétravail officielle. Fait que c'est de voir un peu qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut garder essentiellement quand on fait ça là, dans l'urgence. Je pense qu'il faut s'assurer d'avoir, tantôt on a parlé, les outils technologiques pour être en mesure de bien travailler. Qu'est-ce que ça prend d'autre, selon vous, là, pour être capable de fonctionner en mode télétravail quand on n'est pas habitué à cette pratique-là?
Bien, moi, je peux peut-être donner juste un exemple. J'ai travaillé avec un client cette semaine, justement, là, on a transformé nos rencontres en rencontres de vidéo par vidéoconférence et des choses aussi simples que les gens avaient des ordinateurs fixes et pas de caméra parce que, tu sais, on part avec la prémisse qu'on est tous équipés pour faire ce genre de rencontres-là, mais il y a des organisations qui ne sont pas du tout là, équipées pour ça. Donc, ça va un peu dans le même esprit que les outils technologiques, mais c'est vrai qu'il y a des organisations là, qui n'étaient pas du tout là, prêtes là, à faire la transition, puis c'est à part d'être capable d'ouvrir un ordinateur connecté. Donc, je pense que c'est d'avoir une personne, un super utilisateur, quelqu'un à thème qui peut
être l'utilisation. Caro, je pense qu'on va te mettre en quarantaine pour
c'est essentiel de nous organiser.
Caro, on te met en quarantaine, ta connexion Internet est trop instable.
Parce que t'es trop loin.
Ça donne moi, je pense, va dans ton corridor, Caro, là, ta connexion est meilleure.
Ah oh oui, comme une fois.
Ça peut aider. Effectivement. Alors, voilà, c'est les joies du direct, comme diraient certains. Je pense qu'il y a tout l'aspect, Fleur, on en discutait, il y a tout l'aspect aussi de s'assurer d'avoir le bon environnement hein, de travail quand on est en mode télétravail. On oublie souvent de poser la question à nos employés avant de les envoyer en télétravail comme ça, forcé, mais il faut qu'il y ait un environnement à la maison qui s'y prête.
C'est ça, tout à fait. Donc ben là, on vient le voir avec Caro. Une bonne connexion Internet, c'est déjà l'essentiel. Puis c'est ça, un espace dans lequel ils peuvent se retrouver, que ça soit au calme, ergonomique aussi, le plus possible. Bon là, encore une fois, on est dans situation exceptionnelle. Donc, il faut s'adapter constamment. On se retrouve peut-être avec des conjoints, les enfants à la maison. Donc, ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver l'espace qu'il faut. Mais oui, ça prend un bon environnement de travail, des bons équipements. Puis, au-delà de ça, une fois que ça c'est mis en place, il faut que l'employé aussi il parte chez lui avec des attentes claires, pas qu'il se retrouve chez lui tout seul sans savoir quoi faire, où aller. Enfin, donc vraiment un contact régulier puis fréquent, je pense, avec son gestionnaire ou son équipe pour éviter aussi le sentiment d'isolement. Parce que ça peut être vite quand on n'a pas l'habitude, puis qu'en plus là c'est dans une situation où c'est forcé. Je pense que c'est vraiment important de prendre cette notion-là des attentes, puis de continuer à garder le lien, donc pouvoir faire des réunions d'équipe comme on fait nous en vidéoconférence de manière régulière, etc.
C'est même tellement vrai, Fleur, là, ce que tu dis, que, tu sais, en plus, les gens n'ont pas la possibilité d'aller travailler dans un café. Mm-hmm. Tu sais, socialement, il y a un isolement qui est encore plus grand que dans la vraie vie quand on est en télétravail. Fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Je pense que c'est un point qui, tu sais, faire encore plus d'efforts que normalement on ferait pour garder les liens dans les équipes, ouais.
Et puis aussi, au-delà de ça, la communication, elle se fait beaucoup par écrit. Quand on est en télétravail, il n'y a pas le collègue qui passe devant nous, puis hey, on fait un petit bonjour ou une petite confirmation sur quelque chose. Donc, je pense que c'est aussi important de mettre de l'importance dans les écrits. Par exemple, les petits smileys, les petites choses comme ça, ça aide à savoir quelle est l'interprétation du message qu'on va avoir. Je pense que c'est des petites choses comme ça, mais c'est important parce que les personnes qui n'ont pas l'habitude... Enfin, elles peuvent se retrouver déstabilisées avec ça. Donc, voilà, il faut faire en sorte que les gens se sentent bien, puis pas isolés et comprennent bien les messages, les attentes qu'on a envers eux. On est conscient que c'est une situation exceptionnelle. Puis c'est surtout pour les personnes, je parle, qui n'ont pas l'habitude là, de
faire du télétravail. Parce que tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Hein? Nous, on a l'habitude, on est en télétravail pratiquement 100% de notre temps et pourtant, parfois, c'est difficile. Hein? Donc, imaginez ceux qui n'ont pas l'habitude, mais ceux qui ne sont pas faits pour le télétravail et qui sont obligés de le faire en ce moment, il faut penser à eux. Donc, je pense que la communication la plus fréquente possible avec l'équipe et avec les gestionnaires, ça reste un incontournable dans une situation comme celle-là. Je trouve ça intéressant. Tantôt, vous avez mentionné aller travailler dans un café. C'est pas possible en ce moment. Les cafés sont fermés. Par contre, les restaurants restent ouverts dans une certaine mesure. Je voulais juste mentionner parce qu'on m'a posé la question récemment à ce sujet-là. Il y avait des gens qui voulaient être en mode télétravail, mais aller s'installer dans un restaurant ou dans un environnement externe pour télétravailler. Je dirais qu'en ce moment, les bureaux sont probablement des environnements plus sécuritaires que ces cafés ou ces restaurants-là. Donc, il y a tout l'aspect de la santé et sécurité qui est quand même un élément qui est important à observer dans une situation comme celle-là. Il y a les obligations de l'employeur, obligations de l'employé. Quelles sont les mesures à prendre aussi dans un contexte comme celui-là pour assurer, dans la mesure du possible, la sécurité des lieux de travail? Parce qu'il y en a qui travaillent encore là sur le bureau parce qu'ils n'ont pas la possibilité de télétravailler de par la nature de leur poste ou parce qu'ils n'ont pas l'environnement qui leur permet de télétravailler. Comment on fait là, justement pour s'assurer de respecter cette... En tout cas, d'offrir le plus possible un environnement sécuritaire à nos employés qui viennent au travail?
C'est sûr que, tu sais, on peut partir des mêmes principes que toutes la loi sur la santé et sécurité. Donc, dans le fond, l'employeur a lui-même une obligation de prévenir les risques, d'informer ses employés et d'offrir les équipements ou les outils nécessaires là, pour... je pense que dans cette optique-là, les mesures qui sont prises par les employeurs sont non seulement recommandées, mais sont jusqu'à un certain point essentiel et nécessaire parce que ça fait partie de l'obligation de l'employeur de prendre ces mesures-là. Après ça, dans un contexte où on est tenu de venir au travail ou d'assurer là, une présence, dans certains cas, même s'il y a peut-être un petit peu de pénurie à ce niveau-là, bien, peut-être de prévoir certains équipements individuels, soit des masques, des gants, des lingettes, d'intensifier les mesures d'hygiène, donc de nettoyage, peut-être faire venir la compagnie de nettoyage plus régulièrement, d'aménager, on parlait tout à l'heure, là, les bureaux ou les espaces de travail différemment pour essayer là, d'éviter là, la propagation. Donc, c'est sûr que d'un côté, il y a plusieurs responsabilités de la part de l'employeur. Il y a aussi des responsabilités individuelles. Donc, l'employé lui-même a aussi cette responsabilité-là d'assurer sa propre santé et sécurité, mais aussi celle de ses collègues, tu sais, en lavant nos mains, en se mettant nous-mêmes en isolation si on est peut-être à risque. Donc ça peut faire partie des éléments là qui sont possibles. T'avais-tu quelque chose à dire, Sarah? J'ai vu que tu voulais intervenir.
Non, je t'écoutais passionnément.
Oh, wow!
C'est l'écoute active. Moi, je vais me calmer.
Parce que tu as ta petite main de levée, je pense, dans ton écran.
C'est pas grave.
Non,
c'est pas grave. C'est bon. Puis c'est sûr que, bon, évidemment, on prend pour acquis que tous les employeurs sont coopératifs, qui vont prendre les mesures nécessaires, mais tu sais, dans des cas un peu plus extrêmes où ce ne serait pas le cas, c'est sûr qu'il y a toujours cette possibilité-là pour l'employé de se prévaloir de son droit de refus. Donc, ça, dans la loi là, sur la santé et sécurité, c'est quelque chose qui est possible. Pour le faire, l'employé doit avoir vraiment des raisons, des motifs raisonnables là, d'alléguer qu'il y a des risques pour sa santé ou pour celle des autres. Donc, puis là, généralement, il y a un mécanisme de discussion, puis bon, l'idéal, c'est que l'employeur puisse prendre les mesures nécessaires s'il y a lieu, mais sinon, là, on peut même faire appel à la CNESST, là, donc ça fait partie des droits de l'employé. On parle beaucoup de mesures sanitaires ou d'hygiène, mais je pense que dans le contexte, il y a aussi tout le support peut-être psychologique qui peut être aussi important, soit parce qu'on est en télétravail puis on finit par se sentir un peu déprimé ou parce qu'on a des gens autour de nous pour qui on s'inquiète ou qu'on s'inquiète pour notre santé ou pour celle de nos enfants. Souvent, les organisations vont parfois avoir le droit d'avoir dans leur programme d'assurance collective des programmes d'aide aux employés. Donc ça, c'est gratuit. Je pense que ça vaut la peine d'en faire la promotion. Sinon, de plus en plus, on voit aussi là, des nouveaux programmes de télémédecine. Il y en a différentes options. Des fois, pour quelques dollars par mois, c'est possible d'offrir ça à nos employés. Peut-être que dans le contexte actuel, ça peut être le genre d'avantage qui peut être particulièrement intéressant là, pour être capable d'avoir un support sans nécessairement avoir besoin de se rendre à l'hôpital ou à la clinique là, pour obtenir du support. Puis je pense que peut-être dans les autres éléments aussi à garder en tête, c'est que je pense que, comme Fleur le disait, là, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je pense qu'il faut que les employeurs aussi fassent preuve d'un peu plus de flexibilité. Là. Je pense que bien que la politique d'absence précise qu'après 3 jours, on doit avoir un billet du médecin, je pense que dans le contexte actuel, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire là, que d'aller consulter un médecin là, à l'heure actuelle. Fait que, je pense qu'il faut être plus flexible et compréhensif aussi là, par rapport à ces éléments-là.
Définitivement. Puis malgré tout ça, hein, on sait que des gens vont devoir s'absenter. Il va falloir gérer les absences des employés. Beaucoup de questionnements, autant de la part des employeurs que des employés sur comment on va rémunérer nos employés pour ces absences-là. Les mises en quarantaine, les gens qui seront malades, les gens qui devront s'occuper d'un proche malade, les enfants qui sont plus à l'école on doit avoir une personne à la maison pour en prendre soin. Donc, comment on fait ça? C'est quoi les bonnes recommandations qu'on aurait à faire aux gens qui nous écoutent là, sur le sujet?
Oui, ben voici là un grosso modo quelques pistes de recommandations et des informations. Dans le fond, c'est sûr que tout dépend de la capacité de l'organisation à payer ses employés. Il y a des organisations qui ont dit pour qui le télétravail n'était pas envisageable, qui ont dû fermer, mais qui ont décidé de payer leurs employés quand même. Ça, c'est un cas de figure qu'on a vu. Sinon, ben après ça, si les employés sont absents pour maladie, évidemment, il y a les banques de congés de maladie qui peuvent être prises s'ils n'ont pas été déjà consommé. La CNESST aussi donne 2 jours de maladie par année après 3 mois de service continu. Donc, si ces journées-là sont toujours en banque, c'est possible de les prendre. Là, après ça, évidemment, c'est le moment aussi pour l'organisation de passer en revue là, toutes les couvertures d'assurance collective. Les plus petites entreprises, c'est plus rare qu'ils ont accès à l'invalidité courte durée, mais ça s'est déjà vu. Donc, si c'est possible pour les employés d'avoir recours à ça, ça peut être une belle option. Sinon, ben après ça, pour la rémunération des employés qui sont absents, ben il y a l'assurance emploi qui existe pour ces gens-là. Toutefois, le programme a été assoupli vu les conditions exceptionnelles, mais pour les gens qui sont malades à cause du virus, c'est pour les gens qui sont mis en quarantaine. Donc, les gens qui doivent s'absenter pour s'occuper d'un proche malade ou parce que les enfants ne vont pas à l'école ou ne vont pas à la garderie ne peuvent pas bénéficier là, de l'assurance-emploi pour le moment. Donc, en gros, pour les absences, ça ressemblerait à ça. Sinon, bien évidemment, il y a toujours l'option de vider les banques de vacances. L'employé est malade, mais ça n'empêche pas qu'il y a des vacances d'accumuler. Donc, c'est possible de payer en vacances. J'ai même vu sur Internet des organisations qui ont donné le droit de piger dans les vacances futures. C'est pas une pratique qu'on recommande nécessairement, mais dans les cas actuels, ça peut être une bonne option.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a aussi une diminution des revenus? Parce qu'il y a différents cas de figure qui risquent de se présenter dans les semaines qui s'en viennent. Donc, les employés vont s'absenter, il faut traiter ça. Mais il y a aussi toute la situation où l'organisation va avoir un achalandage qui est moins grand. C'est pas vrai pour toutes les organisations, mais beaucoup d'organisations en ce moment ont de l'inquiétude par rapport à ça. C'est quoi les options qui s'offrent aux organisations pour être capables de passer à travers cette crise-là tout en conservant ses employés dans la mesure du possible? Quand c'est pas possible, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on emprunte comme avenue pour respecter les règles, respecter les lois, les normes du travail? On a reçu quand même beaucoup de questions par rapport à ça, nos clients.
Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que pour commencer, on peut peut-être on peut aller voir nos employés, leur expliquer la situation, tout ça, ils sont au courant, puis voir si c'est possible pour eux de prendre des congés sans solde volontaire. Donc, à ce moment-là, l'employé conserve son lien d'emploi, reste à la maison, mais n'est pas rémunéré pour ses journées de congé. Après ça, c'est possible aussi d'obtenir une réduction des heures travaillées. Donc, la personne qui travaillait 37,5 heures par semaine peut être amenée à travailler, je ne sais pas, 20 heures, 25 heures par semaine. Fait que déjà là, l'employeur verse un salaire qui est moindre aux employés. Après ça, il y a le programme de travail partagé de Service Canada qui est conçu pour éviter justement là, les mises à pied, les licenciements lorsqu'il y a un ralentissement temporaire des activités. Donc, le programme fournit des prestations d'assurance-emploi aux employés qui acceptent de réduire leurs heures normales de travail puis de partager le travail disponible qui reste avec les autres employés. Donc ça peut être une belle recommandation pour les organisations qui ont une diminution de revenus.
J'allais juste dire ce que je comprends de ce que tu dis, Daphné, c'est que l'idée, c'est de dire, ben OK, tu sais, oui, on pourrait mettre des gens à pied, mais au lieu de mettre tout le monde en mise à pied temporaire, il y a l'idée que tout le monde baisse un petit peu leurs heures, comme ça, individuellement, ça affecte un peu moins les employés, puis il y a possibilité d'avoir une partie des prestations quand même par l'assurance-emploi, c'est ça? C'est ce que tu dis?
C'est, okay. C'est ça. Dans le fond, la personne continue à travailler, je sais pas moi, 20 heures par semaine à son taux horaire régulier, puis le 15 à 20 heures qui reste, ben, il est partagé avec un autre employé, puis la différence va être payée par l'assurance-emploi. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de licenciement qui est fait, il n'y a pas de mise à pied non plus. Puis, c'est plus avantageux pour l'employé à ce niveau-là.
Ouais, c'est plus avantageux pour l'employé, mais c'est aussi plus avantageux pour l'organisation parce qu'il ne faut pas oublier que la crise va passer, puis à un moment donné, on va revenir à une situation, un certain retour à la normale et les organisations peuvent se permettre à ce moment-là de garder leurs employés déjà formés, déjà compétents dans l'organisation, plutôt que de faire des mises à pied complètes, puis que là, les gens vont se remettre à chercher un autre travail, ils seront peut-être plus disponibles là, le jour où l'organisation aura à nouveau besoin d'elles. Puis ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce programme-là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans le passé suite à des crises économiques, dont celle de 2008-2009. Puis, tu sais, comme nos éditeurs le savent sûrement, on s'intéresse beaucoup à l'engagement hein, des employés, puis il a été démontré que le niveau d'engagement post de crise était toujours plus grand dans les organisations qui s'assuraient de conserver leurs employés, quitte à faire du partage de postes comme ça ou diminuer un certain nombre d'heures pour tous les employés plutôt que de faire des coupes de postes complètes là, de façon ciblée. Donc, je trouve que c'est quand même important de le mentionner à nos auditeurs puis à tenir compte là, dans les décisions qu'ils auront à prendre dans les prochaines semaines.
Il y a l'aspect de solidarité aussi, hein, tu sais, dans la culture d'entreprise, tu sais, il y a l'aspect humain de dire tu vas affecter moins de gens, puis tout ça, mais aussi, je trouve que c'est une solidarité d'équipe, de dire, ben, on est tous dans le même bateau, versus, ben, tu sais, toi, ton poste, il est moins clé en ce moment. Tu sais, les gens sont des fois même plus flexibles que ce qu'on peut penser, fait qu'on peut revoir le partage de rôles, revoir le partage de tâches. Tu sais, je pense qu'on peut faire les choses un peu différemment dans le contexte. Puis certaines personnes peuvent prendre des morceaux qui ne sont pas dans leur charge de travail en ce moment. Fait que je trouve que c'est un aspect qui est vraiment intéressant.
Tout à fait. Tu sais, je pense que quand on, souvent on va le dire, on serre les coudes puis on va passer à travers. Puis tu sais, il faut pas négliger des fois dans certains cas quand il y a des mises à pied de, tu sais, puis que de nos collègues qui sont affectés. Il y a toujours un peu ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Donc tu sais, c'est les gens qui restent mais qui sont heureux de rester, mais en même temps qui sont partagés puis qui se sentent parfois un peu coupables. Donc je pense qu'en effet là, c'est définitivement quelque chose à réfléchir puis à envisager là pour minimiser les impacts collectifs.
Oui, puis il y a des mesures pour les entreprises aussi qui ont des difficultés financières. Tu sais, avant d'en arriver là de couper des heures, peut-être, je pense qu'il y a des choses à regarder. Je ne sais pas.
Oui.
C'est quelqu'un qui a envie d'en jaser.
Moi, j'aurais peut-être eu envie de faire un petit retour sur l'assurance-emploi avec les nouvelles mesures que le gouvernement provincial a parlé hier, juste un petit peu là, pour rendre ça un petit peu plus clair. C'est sûr, quand, par exemple, on prend une organisation qui est dans l'événementiel, qui doit absolument arrêter ses événements parce que c'est une interdiction de rassemblement de 250 personnes et plus, là, évidemment, ses activités sont mises un peu en péril. Donc, si elle en vient à devoir faire des mises à pied, ses employés peuvent bénéficier de l'assurance-emploi pour prestations régulières. Il y a comme une différence entre l'assurance-emploi pour prestations régulières puis pour prestations de maladie. Donc, prestations régulières, ça va être vraiment comme on voit actuellement là, quand on voit des mises à pied pour le manque de travail ou quand il y a des mises à pied massives. Donc, c'est pas la faute de l'employé, c'est vraiment l'employeur qui doit, qui ne rompt pas le lien d'emploi, mais qui n'a plus suffisamment de travail à offrir. Donc, l'employé peut se tourner vers cette forme d'assurance. Donc, c'est au niveau fédéral. L'autre côté, c'est l'assurance-emploi plus d'un côté maladie. Donc, les gens qui sont soit malades par le coronavirus, par exemple, ou qui doivent s'isoler parce qu'ils reviennent de voyage. Donc, pour généralement, ce qu'on voit, c'est la prestation de maladie. Donc, le gouvernement du Québec, lui, ce qui est venu parler hier, c'est vraiment le PAT, qui est le programme d'aide temporaire aux travailleurs, qui vient dire ceux qui ne sont pas admissibles au programme fédéral, donc d'assurance emploi pour prestations de maladie, donc qui n'ont pas suffisamment cotisé, par exemple, sur leur salaire là, pour tout ce qui est assurance emploi, peuvent être éligibles à ce nouveau programme. Donc, pour avoir, ils vont avoir le même montant d'argent là, qu'aurait eu quelqu'un qui était éligible, qui est par exemple de 573 $ par semaine pour un maximum d'un mois. Donc, ça ne vient pas tenir compte des employés qui sont coupés, en fait, du travail, mais c'est vraiment ceux qui doivent s'isoler. Donc, il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Là, c'est, on ne peut pas tout le monde qui peut bénéficier de cette pratique-là.
Et c'est bon pour les travailleurs autonomes aussi qui n'ont habituellement pas droit à l'assurance-emploi puisqu'ils ne payent pas des prestations.
Et probablement aussi des femmes qui reviennent de congé de maternité parce que généralement, on sait que c'est des vases communicants. Donc, quand on a utilisé nos prestations pour congé parental, maternité, on n'a souvent plus là, de gains admissibles au niveau de l'assurance-emploi. Donc, j'imagine que ça doit s'appliquer pour ces gens-là aussi.
Tout à fait.
Tout à fait. On a eu aussi la question de nos clients sur l'aspect, est-ce que je dois payer, si je fais des mises à pied temporaires, est-ce que je dois payer les vacances, fournir des relevés d'emploi? C'est quoi la mécanique quand c'est des mises à pied temporaires versus des mises à pied définitives? Hein? Parce que là, j'imagine qu'on s'enligne plus pour des mises à pied temporaires là, dans la situation qui nous concerne. Puis il y a aussi la notion de mise à pied de 10 employés et plus, j'oublie le terme, là, licenciement collectif. Alors là, des règles différentes s'appliquent, quoique je ne serais pas étonnée qu'il y ait des assouplissements aussi à ce niveau-là là, dans les prochaines semaines qui pourraient être annoncés. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des éléments qui s'appliquent. Est-ce que quelqu'un a la réponse pour nos clients à ce niveau-là?
Oui, ben dans le fond, au niveau des mises à pied temporaires, ben comme tu dis, probablement que la CNESST là va être amenée à assouplir ces règles prochainement. Mais pour le moment, l'employeur n'a pas d'obligation là, à verser le préavis ou les vacances accumulées. Donc, il fait une mise à pied temporaire, il y a un relevé d'emploi qui est généré. Donc, à ce moment-là, l'employé peut aller à l'assurance emploi pour retirer du chômage. Puis, il conserve son lien d'emploi là, avec l'organisation.
Pour une période de 6 mois.
Pour une période de 6 mois. Là, après ça, quand la mise à pied se prolonge au-delà de 6 mois, l'employeur va devoir donner un avis de cessation d'emploi avec toutes les sommes dues à l'employé. Donc, vacances, heures supplémentaires et ainsi de suite. Donc, en gros, là, pour les mises à pied temporaires, c'est pas mal ce qui résume pour le moment.
Pour les organisations où il y aurait une mise à pied temporaire, mais pour de plus de 10 employés, là, à ce moment-là, il y aurait aussi un avis là, au niveau de la CNESST qu'il faudrait qu'il soit envoyé. Là, dans ce cas-là, là, les mesures seraient un peu différentes. Mais quand on parle de 10 employés et plus pour une période de plus de six mois, je pense.
Oui, 6 mois et plus, oui.
Ouais.
Non, parce qu'il y a une rupture du lien d'emploi. Licenciement. Oui. Bien, mise à pied temporaire, exact, ça peut être autant pour 1 que 15 employés. Donc, ça va être une mise à pied massive. Mais lorsqu'on dépasse le 6 mois puis qu'on doit rompre le lien d'emploi, bien, là, on va parler de licenciement collectif si c'est plus de 10 employés. Et donc, de donner les sommes qui étaient dues. Là. Puis, tous les délais qui sont suggérés sont sur le site de la CNSST. Là. Donc, on peut s'y référer tout le temps pour avoir les bonnes pratiques.
Excellent. Il y a d'autres mesures aussi récemment qui ont été annoncées là, par certaines organisations pour aider à supporter autant les entreprises que les personnes, hein, les individus qui risquent d'avoir des soucis financiers possiblement dans les prochaines semaines.
Oui. On assiste vraiment à une grosse mobilisation là, de l'ensemble des organisations. Tout le monde essaie de faire son chemin pour aider tout le monde. On n'arrête pas de recevoir des courriels, des communiqués, tout ça. Premièrement, bien évidemment, il y a l'assurance emploi qui a retiré sa semaine de carence pour les gens qui étaient en quarantaine ou en maladie, qui avaient contracté le virus de la COVID-19. On a su là, tout récemment que Hydro-Québec allait permettre aux particuliers des délais là, au niveau des paiements, puis qu'il n'y aurait pas de coupure au niveau d'électricité. Il y a certaines banques, certains créanciers aussi qui ont avisé que les particuliers allaient pouvoir prendre des ententes particulières ou avoir certains délais au niveau du paiement des prêts personnels, hypothèques, etc. Il y a des banques aussi qui ont de la banque section affaires qui ont
la BDC.
Plus des jardins affaires et tout ça, oui, qui allaient assouplir les paiements au niveau des organisations, puis qui allaient être là pour supporter là, les petites et moyennes entreprises. On a su aussi aujourd'hui que les impôts provinciaux allaient être reportés jusqu'à la fin juin, si je ne me trompe pas, puis qu'il allait avoir un délai supplémentaire là, pour les gens qui avaient un solde à payer au niveau de l'impôt. On n'a rien au niveau de l'impôt fédéral pour le moment, là, mais au niveau de l'impôt provincial, si je ne me trompe pas, là, on aurait jusqu'à juin, juillet pour payer le solde dû si jamais il y a un solde. Donc, c'est plein de mesures là, qui sont mises de l'avant pour aider tout le monde dans cette situation exceptionnelle. Puis probablement qu'il va y avoir d'autres mesures là, qui vont venir là, dans les prochains jours, prochaines semaines pour aider tout le monde.
Il y a aussi la BDC qui a annoncé qu'elle allait faciliter des prêts de quand même des prêts en ligne, là, je pense en 48 heures, il y a des montants quand même importants. Fait pour les PME là, qui ont un petit peu de misère avec leur cash flow, ça vaut la peine d'aller regarder. Ils ont aussi mis des experts disponibles pour aider, je ne sais pas, à revoir les bilans financiers, voir un peu l'impact des choses. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller consulter leur site web puis voir. Puis je pense que ce n'est pas juste pour leurs clients. Fait que même si vous êtes non-client de la BDC, vous pouvez quand même peut-être vous prévaloir de certaines mesures. Fait que je pense que ça vaut la peine de regarder ça comme entrepreneur aussi.
Je pense qu'on peut s'attendre à de nombreuses autres annonces là, qui seront faites dans les prochains jours, prochaines semaines pour donner de l'aide supplémentaire. Donc, il faut rester à l'affût. Est-ce que, mesdames, vous aviez à rajouter des éléments qu'on n'aurait pas mentionnés jusqu'ici qui vous paraissent essentiels à communiquer à nos auditeurs sur le sujet?
Comme tu as dit, je pense que c'est important de garder en tête de demeurer flexible dans la mesure du possible au niveau des décisions là, qu'on a à prendre, puis de penser à plus tard, parce que c'est la façon dont on gère actuellement qui va nous rapporter fruit là, après la crise.
Sachant que c'était la pénurie totale hein, de main-d'œuvre juste avant qu'on tombe en crise du COVID-19. Il y aura un retour à la réalité, peut-être qu'étant donné un ralentissement économique là, qui devient de plus en plus inévitable, il y aura un rééquilibrage du marché du travail qui va se faire. Ça va peut-être être un peu moins la folie du côté de la pénurie de main-d'œuvre, mais on s'attend à ce qu'il y ait un retour à cette pénurie-là quand même après la crise. Donc, ne pas oublier cet élément-là là, dans les décisions qu'on prend des fois sous dans l'état de panique là, qu'on peut se retrouver en tant qu'organisation. Donc, pas perdre de vue là, qu'il faut qu'on ait les ressources nécessaires dans l'équipe pour être capable de reprendre la vie normale par la suite.
Puis tu parles de panique, Jay, je pense que c'est un excellent point. Tu sais, si vous êtes dirigeant ou gestionnaire, je pense que c'est un devoir d'essayer de rester calme puis de rationaliser les choses puis de faire un plan d'action avant d'annoncer des trucs aux employés ou de transmettre un peu l'espèce d'incertitude. C'est sûr que tout le monde est incertain, tout le monde est inquiet. Je pense que ça vaut la peine de prendre du recul, peut-être de brainstormer des idées des fois avec des gens dans votre réseau d'affaires. Tu sais, vous avez peut-être des personnes qui vivent la même situation. Peut-être il y a des gens qui vivent la même situation dans vos organisations. C'est important malgré tout de rester transparent. Fait que, si jamais vous avez des situations problématiques ou des choses qui vont affecter les gens, je pense qu'il faut dire les vraies choses. Il faut faire attention à comment on s'y prend puis tout ça, mais reste que la situation n'est pas idéale pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être affectés. Il faut être humain, il faut rester conscient un peu de ça, mais malheureusement, je pense qu'il va peut-être avoir des côtés un peu plates pour certaines personnes, donc il faut y faire un peu face, je pense.
Rester authentique et transparent dans nos communications autant que possible. Peut-être prendre l'opportunité aussi en même temps pour, étant donné qu'on a du temps à offrir, en fait, chez certaines organisations, hein, il y a des employés peut-être qui ont un petit peu plus de temps de disponible en étant en télétravail, de peut-être justement en profiter pour préparer le retour à la normale, et c'est peut-être le temps de faire du recrutement en ce moment. On a vu beaucoup d'organisations qui avaient arrêté leurs activités de recrutement pour le temps de la crise. C'est sûr que quand on est en mode gestion de crise, on a d'autres chats à fouetter, mais là, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça pourrait être une bonne opportunité hein, de se remettre à réfléchir à nos façons de faire. Je pense que Sarah, tu avais peut-être des conseils.
Bien, c'est ça, parce qu'on en jasait hier, on se disait... Ouais, tu sais, tout le monde se dit, hey, là, c'est pas la priorité de recrutement, puis on est bien d'accord. Sauf que, une fois que la crise est passée, si jamais vous êtes opérationnel de la maison, il y a beaucoup de gens qui vont se remettre en question, qui ont du temps pour réfléchir, qui vont regarder les emplois, qui vont refaire leur CV. C'est le temps, si vous êtes capable de le faire, de mettre des ressources là-dessus, puis de peut-être avoir un peu plus de choix que dans les semaines précédentes là, pour combler des postes que vous savez que vous allez devoir combler de toute façon au retour normal des choses. L'idée, c'est pas non plus d'embaucher les gens pendant cette période-ci, c'est plus de commencer à entrer en contact, de faire du screening de CV, de faire des affichages, puis de un peu prendre action là-dessus. Et d'ailleurs, on vous a préparé un outil gratuit que vous pourrez télécharger donc sur notre site Internet. On va le publier sur nos réseaux sociaux. Dans le fond, c'est un peu un post un peu plus marketing là, qui peut être utilisé pour faire de la publicité là-dessus. Vous pourrez le personnaliser à vos couleurs d'entreprise. On a mis quelques petits trucs et astuces pour vous aider. Fait que si jamais ça donne, on ne dit pas que c'est une priorité, mais on dit que si vous êtes capable d'en tirer profit, ben c'est peut-être une bonne idée.
Excellent. Puis surveillez également, là, on va partager un exemple de politique de télétravail aussi pour que les gens puissent s'inspirer là, pour ceux qui ont à mettre en place une politique de télétravail un peu dans l'urgence. Au moins avoir un élément de départ donc qui sera disponible sur notre site web et les médias sociaux. Alors, j'en profite, mesdames, pour vous remercier beaucoup de votre participation à cette édition spéciale de notre podcast. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Sarah, as-tu quelque chose à rajouter pour la conclusion?
Bien, abonnez-vous à notre podcast. Là, vous nous voyez en live. Je pense qu'on va être sur YouTube. Là, on a des petites confirmations techniques à faire avec Charles, mais normalement, ça devrait être un épisode qui est disponible en vidéo. Mais les autres épisodes sont tous disponibles en version audio dans votre téléphone, dans votre ordinateur, soit sur le site de Via Conseil ou à travers les plateformes traditionnelles. Voilà.
Super. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à la prochaine.
À bientôt.
Salut, bye. Bye.